Bonjour à tous et j'espère que vous êtes tous vraiment réconfortés par la grâce que demain nous allons, en tout cas, avec d'une certaine manière la force et la puissance du Saint-Esprit, retrouver eh bien, la douceur et la miséricorde de Dieu à travers le cœur miséricordieux de Dieu, sous le Sacré-Cœur et, je l'espère, sous la volonté et sous l'onction vraiment du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous allons encore reparler de Saint-Luc et nous allons en tout cas reprendre notre évolution dans le mystère que Saint-Luc nous donne à entendre et à promouvoir tout au long de son évangile. Comme nous l'avons vu, tout au long de notre fil conducteur, Saint-Luc est pour nous quelqu'un qui devient un être inspiré. Il est inspiré par Dieu et tout ce qu'il nous propose de recevoir, d'entendre, est profondément inspirant pour nous. Nous avons comme une sorte d'élément qui consubstantiellement nous donne le désir de rentrer dans la vie de Jésus et de l'assumer nous-mêmes, comme une forme de réalité qui nous appelle vraiment à sortir de l'expérience humaine pour entrer dans une réalité nouvelle et concevoir avec l'originalité de ce qu'est véritablement un intellectuel à cette époque, de tout ce qui l'environne et de tout ce qui le rend heureux. L'œuvre de Saint-Luc, comme nous l'avons vu tout au long de cette année, se présente comme un évangile du récit ordonné de la vie de Jésus, de ce que Jésus a fait, et de ce que Jésus a enseigné. De son enfance, comme nous l'avons vu avec les évangiles de l'enfance, sur lesquels nous sommes restés longuement tout au long de ces deux ou trois premiers mois de notre rencontre et de notre écoute profonde de l'évangile de Saint-Luc. Et puis ensuite, de ce qu'il y a peut-être comme élément structurant dans la vie de Jésus, c'est bien sa préparation au ministère. Comment Jésus est profondément appelé par la grâce à devenir un être qui va particulièrement manifester la présence de Dieu au milieu de ce monde. Donc, dans les premiers chapitres, je le rappelle, le chapitre 1 et 2 de Saint-Luc, nous avons bien vu le récit d'une enfance conséquente, mais glorieuse, du Christ qui, en tout cas, se dévoile à notre vision d'homme. Dans le chapitre 3 et 4, nous sommes dans la préparation du ministère, avec, bien sûr, la révélation de la tentation au désert, et en même temps, comme nous le savons, eh bien, du baptême de Jésus, qui est profondément, comme nous l'avons vu dans un de nos temps d'échange et de réalité, un véritable lieu où Dieu se révèle à chacun d'entre nous. Dans les chapitres 4 jusqu'au chapitre 9, nous avons vu que la vie de Jésus commence, vie publique, vie exceptionnelle en Galilée, où il ordonne et manifeste avec puissance les prodiges, que Dieu va manifester profondément à tous les hommes. C'est vraiment ce qui nous a un petit peu tenu, la laine tout au long de ce temps de carême. Et puis, bien sûr, du chapitre 9 jusqu'au chapitre 19, nous avons vraiment la résolution de Jésus de prendre la route de Jérusalem parce qu'il va maintenant devoir accomplir la mission pour laquelle il est appelé. Il va devenir un être de lumière pour l'humanité et il va lui permettre à cette humanité et particulièrement à chacun des hommes de cette humanité de trouver la place qui lui est due dans la grâce et dans la puissance de la révélation. Au chapitre 20 et au chapitre 20, du chapitre 20 jusqu'au chapitre 22, nous avons là, bien sûr, c'est Jérusalem, ville où profondément la présence de Jésus va se révéler comme le signe attendu, comme le signe du libérateur. C'est dans cette ville de Jérusalem que se déroule la passion et la résurrection de Jésus. Et bien sûr, pour terminer, nous avons toute cette épisodie qui va commencer au chapitre 22 jusqu'au chapitre 24, où nous avons vraiment la résurrection comme une véritable porte ouverte sur la transmission de la foi des chrétiens et donc la volonté de construire et de matérialiser la joie et la puissance d'un Dieu d'amour sur chacun des frères et particulièrement à partir, comme vous le savez, de la sortie du tombeau. Allez en Galilée, je vous envoie afin que vous soyez tous, au fond, de véritables hommes de la bonne nouvelle, des hommes de la joie. Voilà tout ce que nous avons, en tout cas, porté tout au long de cette année. Mais je voudrais vraiment que nous restions sur le chapitre 22 du livre de Saint-Luc, de l'évangile de Saint-Luc, et je voudrais que nous restions vraiment sur ces, sur ces quelques phrases de Jésus. En son verset 7, arriva le jour des pains sans levain, où il fallait immoler l'agneau pascal, Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant « Allez faire les préparatifs pour que nous mangions la Pâque. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs ?» Jésus leur répondit « Voici, quand vous entrerez en ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il pénétrera. Vous direz au propriétaire de la maison, « Le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. » Voilà juste quelques phrases qui peuvent paraître totalement anodines, mais elles sont prophétiquement et peut-être matériellement quelque chose sur laquelle, en tout cas, nous devrions nous interroger. Jésus envoie ses disciples pour qu'il prépare la Pâque. La Pâque, vous savez que, au fond, c'est la représentation la plus essentielle pour le peuple juif. C'est le moment où Dieu passe au milieu de son peuple pour le désigner comme le peuple élu, comme le peuple qui a profondément été marqué du sceau de l'agneau pascal. Et c'est pour cela que cela est important pour nous aujourd'hui d'entendre ces quelques mots. C'est peut-être le signe que Jésus aujourd'hui envoie encore des disciples pour annoncer qu'il vient et qu'il vient en plénitude pour nous montrer, pour nous façonner justement cette Pâque nouvelle, cette alliance nouvelle. Et cette alliance, elle se fait en lui et en lui seul. Et comme nous l'avons entendu, tout ce qu'il avait prévu s'est réalisé. Tout ce qu'il avait, en tout cas, prédit, s'est concrétisé au niveau véritablement de ce que les disciples ont pu observer et ont pu vivre. C'est pour vous dire comment la puissance de ce lieu où Jésus envoie ses disciples est déjà un avant-goût de ce que nous, qui sommes aujourd'hui des chrétiens responsables, nous devons entendre. C'est bien à chacun d'entre nous que Jésus promet justement les préparatifs de cette Pâque. Parce que la Pâque nouvelle, la Pâque éternelle à laquelle nous sommes tous appelés justement à partager, à poser, à poster profondément dans nos cœurs, cette Pâque, elle doit s'imprimer comme la circoncision dans notre âme pour que, au fond, ce que nous allons manger, ce que nous allons boire, soit vraiment la résultante de ce à quoi Dieu nous appelle. Donc aujourd'hui, au travers de ces quelques mots, Dieu, au travers de son Fils, nous appelle à vraiment nous préparer à vivre cette Pâque. Et pour cela, il nous demande que nous ayons au fond de nous-mêmes les lieux où les préparatifs se font déjà. Et ces préparatifs, ils se font d'une manière toute spéciale. Parce que nos cœurs, nos âmes, nos esprits doivent être totalement, eh bien, je pourrais dire, encerclés de la volonté divine. Chacun d'entre nous doit prendre en compte, justement, que son cœur est aussi, à la limite, le véritable terreau sur lequel Dieu veut construire et veut mettre, eh bien, à, je pourrais dire, à la disposition de tous, sa volonté, sa spécificité, sa grandeur. Chacun, à sa manière, peut se sentir un peu, je pourrais dire, ébranlé par cette question. Mais c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Ne soyez pas de ceux qui prennent au mot ce que Dieu dit pour dire, en fait, que vous n'y arriverez pas. Mais prenez justement ce que Dieu vous dit pour, en tout cas, engranger en vous le désir de parfaire votre vie et de faire en sorte que ce par quoi vous devez passer soit véritablement une excellente, une magnifique source de grâce et de bonheur. C'est pour cela que les disciples, au fond, se disent, mais comment on pourra dire à ces personnes et que ceux-ci vont nous répondre automatiquement oui. Peut-être seront-ils peut-être récalcitrants à vivre ce que nous voulons leur faire vivre. Eh bien, Dieu, au travers de la bouche de son Fils, nous dit, quand vous arriverez, quand vous entrerez en ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il pénétrera. Vous direz au propriétaire de la maison, le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Cet homme vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée. Faites-y les préparatifs. Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Aujourd'hui, frères et sœurs de Radio Maria, c'est véritablement une grâce particulière que nous avons de pouvoir nous préparer comme Jésus nous le demande pour ce grand moment qu'est le temps qui nous est donné de vivre. Ce moment, il est peut-être pour nous si subjectif et si anodin que nous ne prenons pas toute la dimension de ce que nous avons reçu à travers la résurrection. Jésus, au travers même de sa mort sur la croix, nous a redonné à vivre, je pourrais dire, une expérience que nul autre ne peut vivre. Nous avons reçu la grâce de pouvoir nous réjouir dans la vie divine et de pouvoir nous contenter que cette vie ne nous échappe plus, mais qu'elle soit désormais la plus intime profondément. Nous sommes comme subjugués par le Dieu que nous avons. Il nous a aimés au point de nous donner tout ce dont nous avions besoin. Tout ce qui faisait notre valeur propre. Et au moment même où il s'en va, il nous rappelle que malgré tout, il ne souhaite pas que nous soyons seuls. Désormais, vous ne serez jamais plus seuls, car vous savez que vous avez Dieu avec vous. Vous avez le Saint-Esprit qui est votre compagnon de route et qui vous révélera, au fond, la vérité tout entière. Mais c'est en Jésus et à travers Jésus que nous pouvons nous laisser profondément renouveler pour nous préparer à vers quoi Dieu nous appelle. C'est dans cette configuration, comme nous l'entendons, que vraiment Saint-Luc nous rappelle que nous sommes destinés au salut le plus concret, le plus véritable. Ce n'est pas à une question près ou à une virgule près que nous serons appelés au salut. C'est parce que Dieu l'a voulu et que dans son intégrité, dans son intégralité de Dieu, il s'est assumé comme celui qui veut véritablement que nous soyons sauvés. Et de ce salut, il professe au fond que nous devons avoir un cœur profond préparé, ajusté, configuré. Et c'est pour cela qu'il doit profondément prendre la forme la plus adéquate et la plus concrètement, je pourrais dire, miroir de la grâce et de la miséricorde que Dieu opère à travers, eh bien, tous ses enfants. C'est pour cela que, au fond, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, celui qui s'est montré le plus digne d'être, eh bien, notre frère, d'être celui par lequel la force et la grâce nous a été donnée, vient comme nous subjuguer, nous dire au fond que nous avons encore et encore à ne plus nous limiter, mais à nous sanctifier en lui, à nous rendre vraiment les uns les autres compte de l'urgence de notre amour et de l'amour qu'il a pour chacun d'entre nous. C'est pour cela que vivre la parole de Dieu, c'est vivre comme un théophile, c'est-à-dire c'est vivre comme ceux que Saint-Luc interpelle dans les Actes des Apôtres, dans son premier chapitre, cher théophile, c'est-à-dire ami de Dieu, c'est la conscience véritablement d'une amitié profonde avec Dieu, que c'est dans son cœur que Dieu vient réparer profondément le lit douillet de ce vers quoi il souhaite que notre humanité tende et se concentre, c'est vers son salut et vers sa joie. Donc, toute l'œuvre de Saint-Luc, comme je vous l'ai dit, se résume à un récit ordonné de ce que Jésus a fait et enseigné, comme une enquête sérieuse, avec des témoignages oraux et peut-être même scripturaires qui vont chercher à nous transmettre tous les événements depuis les origines. Si nous n'avions pas l'évangile de Saint-Luc, nous serions comme, je pourrais dire, des hommes et des femmes qui chercherions des éléments qui permettraient de regrouper, de remettre en ordre un certain nombre d'événements que nous rapportent soit Saint-Marc ou Saint-Matthieu. L'essentiel de Saint-Luc, c'est d'aller avec minutie, avec précision, en tout cas, et de rentrer dans des aspects qui sont extrêmement circonstanciés sur ce qui va être pour lui, comme je pourrais dire, un élément qui substantiellement et ordinairement va montrer que la force de la tradition, la force des traditions orales et particulièrement les traditions de l'époque, du bassin dans lequel vivait Jésus, a toujours été prise en compte par celui qui est aujourd'hui, en tout cas, notre rédacteur en chef et notre volontaire enquêteur pour montrer la puissance et la vérité de ce à quoi on se référait en parlant de Jésus. Comme dit, il est important d'entendre combien Luc cherche à rendre compte du projet de Dieu. Et véritablement, je vous l'ai dit, son projet, c'est de montrer que Dieu veut sauver tous les hommes. Le salut est à la source de sa volonté. Le salut offert à tous, et tout cela dans le sens d'une plus grande miséricorde. Tout est dans la notion même de ce qui se révèle. Le salut se vit dans la miséricorde. Demain, nous fêtons le Sacré-Cœur. Et nous savons qu'au travers de ce cœur sacré de Jésus, il y a quelque chose qui résonne profondément. C'est notre misère. La misère de l'homme est prise par Dieu pour être vraiment, eh bien, broyé justement par la croix et porté profondément au pinacle de la puissance de la résurrection qui vient en tout cas lui retirer toute la subjectivité et toute l'intériorité de ce qui peut-être l'aurait empêché d'être aussi époustouflant et aussi grandiose. Je pense que Luc, dans tout son évangile, a cherché à souligner la miséricorde infinie du Père éternel sur et pour tous les pécheurs. C'est véritablement dans son chapitre 15 que nous avons un petit peu survolé, où justement nous voyons bien la force du message de Saint Luc, non seulement avec le fils prodigue, mais avec la brebis perdue, ou même, eh bien, le trésor trouvé. Nous voyons bien que Saint Luc a montré combien la miséricorde est au centre de tout son évangile. Si nous rentrons dans l'évangile de Saint Luc, nous découvrons que c'est l'évangile de la miséricorde par excellence, parce que c'est l'évangile du Père qui, d'une façon particulière, en tout cas, se penche sur chacun de ses enfants et veut manifester à chacun, par des scènes de pardon, par des scènes de réalisme, aujourd'hui assez, je pourrais dire, obsolète pour certains, mais qui pourrait ne pas l'être si nous regardons avec nos yeux de foi comme des moyens pour insister sur la notion même de compassion et de tendresse, comme Jésus lui-même se rend compatissant et tendre pour tous les humbles et tous les pauvres du monde. C'est pour cela que nous pouvons dire que, franchement, avec Saint Luc, nous sommes dans l'âme de celui qui vient pour manifester avec confiance combien Dieu des seuls et grands médecins, des seuls et grands annonciateurs, de la grâce divine. Grâce à Dieu, nous sommes sûrs de tomber non pas dans une frénésie, dans un désir d'absolu. Nous sommes dans une volonté de construire un monde par lequel la miséricorde nous appelle à nous dépasser, à nous surpasser et à entrer vraiment dans la générosité de la grâce, de la puissance de cette grâce en chacun d'entre nous et en chacune de nos vies. De la conception à la naissance de Saint Jean-Baptiste, de la volonté d'être dans le temple et sa fugue à l'âge de 12 ans, dans la volonté de se faire baptiser par Jean, son cousin, de rentrer prophétiquement en son chapitre 4 dans la synagogue et d'ouvrir le livre pour manifester profondément qu'il ce qui se disait au travers des textes bibliques. Voilà la force de ce qui sous-tend toute la réalité de ce livre de Saint-Luc. Nous partons d'une volonté profonde de Saint-Luc de donner à cet évangile la véracité, la grandeur et la supériorité de pouvoir montrer qu'il n'y a qu'une seule volonté pour Dieu à travers son Fils, c'est d'ouvrir l'homme à la réalité du salut et que ce salut lui donne vraiment le savoir que c'est en Dieu seul que désormais tout peut se vivre et que c'est à travers lui que toute miséricorde peut être accordée aux hommes, quels qu'ils soient et quoi qu'il en coûte. Et c'est pour cela que vraiment son chapitre 24, et au dernier, je pourrais dire, les derniers mots de Saint-Luc, nous l'entendons dans son évangile, après, bien sûr, avoir, comment je pourrais dire, pris le temps de les convertir à sa propre résurrection, eh bien, on entend au chapitre 24, au verset, à partir du verset, je pourrais dire, 44, puis il leur déclara : voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence, à la compréhension des Écritures. Il leur dit : ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis, Jésus les emmena en dehors, jusque vers Bethanie, et levant les mains, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils se retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Voilà les quelques mots qui terminent l'évangile de Saint-Luc en son chapitre 24. Voyez comment la force de ce qui s'est passé a entraîné que tous les disciples, dans leur atermoiement, au moment même où ils se trouvent face à quelque chose qui les a complètement, eh bien, décontenancés, ils se mettent profondément parce qu'ils se sont rendus compte de l'évidence peut-être de leur manque de foi, eh bien qu'il fallait maintenant simplement bénir Dieu pour le bonheur qu'ils ont reçu et qu'ils recevront tous les jours, eh bien de ce Dieu qui ne cesse de les aimer et de leur montrer qu'il les aime. C'est peut-être ce à quoi cet évangile nous rappelle profondément. Parfois, nous nous sentons déboussolés, décontenancés par les différents éléments qui sont autour de nous et qui nous prouvent que parfois nous faisons bien des erreurs dans la vie. Eh bien, nous le voyons. Dieu nous rappelle que ce n'est pas dans nos critères absolus que nous avons des réponses. Mais par Dieu rappelle combien nous sommes, eh bien, dans un chemin et que ce chemin se révélera à chacun d'entre nous, que nous soyons revêtus profondément, eh bien, de la grâce du Saint-Esprit qui nous mènera vers la vérité tout entière et nous conduira à ne plus nous retourner, mais à avancer vraiment vers le chemin de la vie, que Dieu saura nous mettre une grande joie. Cette joie qui se profonde, soit-elle, nous permettra tous les jours de bénir Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait à travers nous. Cela est important, cela est même primordial pour tous les êtres humains que nous sommes, quelles que soient les conséquences, quelles que soient les attentes de ce monde. Je crois que nous avons tous à toujours nous réamorcer, nous réalimenter à l'essentiel. Et notre intelligence, vraiment, doit être profondément et bien portée et tout tourner vers celui qui, par ses Écritures, nous a montré quel est le chemin, le véritable chemin de vie sur lequel nous devons nous, je pourrais dire, nous canaliser, nous structurer Et c'est le Christ lui-même qui nous le rappelle. C'est bien à lui et c'est vers lui donc que nous devons nous tourner pour qu'au travers de lui, eh bien au travers de ce qu'il nous a montré, de ce qu'il est chaque jour pour nous, eh bien que nous soyons des témoins d'une joie et d'une profonde volonté, celle que la promesse que Dieu nous a faite, que nous serions tous avec lui un jour et que nous pourrions avec lui, eh bien, porter un regard d'amour sur tous les peuples et sur toutes, eh bien, sur toutes les volontés qui sont récalcitrantes, eh bien, que Dieu vraiment, eh bien, nous montre combien la conversion de ce monde dans lequel nous sommes peut se structurer et combien l'évangile que nous avons lu, cet évangile selon saint Luc, est véritablement un périple pour chacun d'entre nous, un véritable chemin de conversion pour nous. Il est important de pouvoir eh bien, l'entendre, le comprendre. Et c'est tellement heureux, je suis tellement heureux de pouvoir vous dire que c'est en tout cas dans Saint-Luc que vous voyez combien notre humanité est si pauvre, mais combien Dieu aime autant cette humanité et combien son salut, lui est tellement, en tout cas, admirable et souhaitable qu'il, lui, il ne cesse de montrer qu'il continue et qu'il continue encore à vouloir que nous soit donné et nous soit vraiment proposé. Que vraiment la puissance de Dieu vous accompagne en cette fête du Sacré-Cœur demain, que nous soyons tous unis les uns les autres pour, eh bien, toujours avec Saint-Luc, nous porter, eh bien, sur l'essentiel. Nous sommes tous, par la miséricorde de Dieu, pris sous les bras du Seigneur et enveloppés pour que, vraiment, son amour nous soit indispensable et que nous soyons vraiment des témoins de cet amour en ce monde. À très bientôt!